Tolstoï, après le bal. Vous dites qu'un homme ne peut comprendre par soi-même ce qui est bien de ce qui est mal, et que tout dépend du milieu, et que le milieu façonne l'homme. Et moi je pense que tout tient au hasard. Tenez, je vous raconterai quelque chose qui m'est arrivé. Ainsi parlait le très respecté Ivan Vassilievitch, après une conversation dont le sujet était que, pour le perfectionnement individuel, il faut avant tout changer les conditions dans lesquelles vivent les hommes. À dire vrai, aucun de nous n'avait prétendu qu'on ne peut comprendre par soi-même ce qui est bien et ce qui est mal, mais c'était l'habitude d'Ivan Vassilievitch de répondre à ses propres pensées, suggérées par la conversation, et à ce propos de raconter les épisodes de sa propre vie. Souvent, il oubliait complètement son point de départ et se laissait entraîner par son récit, d'autant plus qu'il racontait avec beaucoup de sincérité et de vérité. Bien, cette fois, ce fut la même chose. Je vous parlerai d'après ma propre expérience. Toute ma vie a été influencée, oh non pas par le milieu, mais par toute autre chose. Mais par quoi donc ? Demandâmes-nous. Voilà, oh, c'est une longue histoire. Pour comprendre, je dois raconter longuement. Me raconter. Ivan Vassilievitch réfléchit, puis hocha la tête. Oui, dit-il, toute ma vie a pris une orientation autre à cause d'une nuit, ou plutôt d'une matinée. Il m'est arrivé, quoi, vous êtes donc arrivé, demanda l'un de vous. Ah, il m'est arrivé que j'ai été très épris. Bon, j'avais été amoureux plusieurs fois, mais cet amour était autrement fort. C'est déjà vieux. Elle a maintenant des filles mariées. C'était Mademoiselle B. Oui, Véronica B. Ivan Vassilievitch prononça le nom. Même à 50 ans, elle était encore belle. Mais quand elle était jeune, à 18 ans, elle était exquise, élancée, gracieuse, élégante et majestueuse, précisément majestueuse. Elle se tenait toujours très droite, comme si elle ne pouvait faire autrement, la tête légèrement rejetée en arrière. Et avec sa beauté et sa haute taille, cela lui donnait, malgré sa maigreur, un air royal qui, sans son sourire caressant, est tenu tout le monde à distance. Toujours gaie, les yeux brillants, charmants, tout son être jeune était délicieux. Oh, oh! Comme Ivan Vassilievitch décrit bien. Oh, on va vous décrire n'importe comment. Tout ce qu'il pourra dire ne me donnera pas une idée de ce qu'elle était. Mais il ne s'agit pas de cela. Ce que je vais raconter remonte à la décade des années 40. À cette époque, j'étais étudiant dans une université de province. Je ne sais si c'était bien ou si c'était mal, mais de mon temps, il n'y avait dans notre université ni cercle, ni thème quelconque. Nous étions tout simplement jeunes et vivions comme la jeunesse. Nous étudions et nous nous amusions. Oh, j'étais très gai, très vif et en plus très riche. J'avais un superbe amblier. J'allais aux montagnes russes avec des demoiselles. Oh, le parrainage n'était plus encore à la mode. Et je faisais la noce avec des camarades. À cette époque, nous ne buvions rien, sauf le champagne. Et s'il n'y avait pas de champagne, alors on ne buvait rien. Et jamais comme maintenant, d'eau de vie. Mon plus grand plaisir, c'était les soirées et les bals. Je dansais bien, n'étais pas laid. Ne faites pas de modeste, modeste, répondit une dame. Nous connaissons votre portrait daguerréotypé. Il ne faut pas dire que vous n'étiez pas laid. Vous étiez très beau. Eh bien, soit, j'étais beau. Mais il ne s'agit pas de cela. Dans cette période où mon amour pour elle atteignait le summum, le dernier jour de toute caravane, je fus au bal chez le maréchal de la noblesse. Un vieillard très bien, riche hospitalier et chambellan de la cour. Sa femme, également très bien, recevait. Elle était en robe de velours, une ferronnière de diamants au front, ses épaules et sa poitrine de femme, mûres, grasses, blanches, décolletées comme dans les portraits de l'impératrice Elisabeth Petrovna. Le bal était merveilleux. Une salle splendide, des chœurs, l'orchestre célèbre alors des serres d'un propriétaire amateur. Un effet impressionnant et un fleuve de champagne. Bien qu'amateur de champagne, je n'en vis pas plus ou mérite même 120. J'étais ivre. Ivre d'amour. Mais en revanche, je dansais jusqu'à tomber des valses, des polkas, et bien entendu, le plus souvent possible, avec Varenka. Elle était en robe blanche, avec une ceinture rose. Elle avait des gants de peau blancs, qui arrivaient jusqu'à son coude maigre, pointu, et des petits souliers de satin blanc. Ce dégoûtant Arsimilov, l'ingénieur, me chipa la mazurka. Oh, je n'ai pas encore pardonné. Il avait invité pour cette danse dès qu'elle était arrivée, tandis que je m'étais attardé un peu chez le coiffeur, où j'étais passé prendre des gants. De sorte que je ne dansais pas la mazurka avec elle, mais avec une jeune Allemande à qui autrefois je me fais un doigt de cour. Mais je crois bien avoir été peu poli avec elle ce soir-là. Je ne lui parlais pas, je ne la regardais pas. Je voyais que la taille élancée de Varenka, sa robe blanche à ceinture rose, et son visage animé à fossette, et ses yeux charmants, caressants. Oh, je n'étais pas le seul à l'admirer. Tous les hommes et les femmes, bien qu'elle les éclipsât tous, la regardaient et l'admiraient. Elle ne pouvait ne point l'admirer. Formellement, je ne dansais point la mazurka avec elle, mais en réalité, c'est presque tout le temps avec elle que je la dansais, sans se gêner, traversant toute la salle. Elle venait droit à moi et je m'élançais avec celle sans attendre l'invitation et elle me remerciait d'un sourire d'avoir compris. Quand on nous amena devant elle et que, ne devinant pas ma qualité, elle lui tendre la main à notre cavalier, elle eut un haussement de ses épaules maigres et, en manière de regret et de consolation, me sourit pendant les figures valsées de la mazurka. Je valsais longtemps avec elle, et la respiration rapide, en souriant, elle me disait « Encore !» Et je valsais, valsais, ne sentant plus mon corps. « Comment, vous ne le sentiez pas ?» Quand vous lui avez enlacé la taille, oh, je crois que non seulement vous sentiez votre corps, mais le sien, dit un des auditeurs. Vassilievitch rougit, et presque fâché, s'écria. Oh, voilà bien la jeunesse d'aujourd'hui. sauf le corps, vous ne voyez rien. À notre époque, il n'en est pas de même. Plus j'étais amoureux, plus elle me semblait immatérielle. Maintenant, vous voyez le pied, la cheville, etc. Vous déshabillez les femmes dont vous êtes amoureux. Tandis que pour moi, comme disait Alphonse Karr, oh, c'était un bon écrivain, l'objet de mon amour avait toujours des vêtements de bronze. Non seulement nous ne dévêtions pas, mais comme le bon fils de Noé, nous tâchions de voiler la nudité. Bon, ben, vous ne me comprendrez pas. Non, ne l'écoutez pas. Dites tout ce qui va arriver ensuite, dit l'un de nous. Eh bien voilà, je dansais avec elle, et ne m'apercevais pas de la fuite des heures. Les musiciens, avec l'acharnement de la fatigue, vous connaissez cela, quand arrive la fin d'un bal, jouait toujours le même motif de la mazurka. Dans les salons, les papas et les mamans avaient déjà quitté les tables de jeu en attendant le souper. Les domestiques couraient empressés, portant quelque chose. Il était déjà plus de 2 heures. Il fallait profiter des derniers instants pour l'inviter encore une fois. Et pour la 100e fois, nous fîmes ensemble le tour du salon. Alors, le quadrille après le souper est à moi, lui dis-je en la reconduisant à sa place. Sans doute, si on ne m'emmène pas, me répondit-elle en souriant. Oh, mais je ne le permettrai pas, dis-je. Donnez-moi mon éventail, me dit-elle. Bon, c'est dommage de vous le rendre déjà, dis-je en lui tendant un petit éventail blanc sans valeur. Alors voilà, pour que vous ne revêtiez pas. Et elle arracha de l'éventail une petite plume et me la tendit. Je pris la plume et je ne pus que par le regard exprimer tout mon bonheur et ma reconnaissance. J'étais non seulement gai et content, j'étais heureux, bon. Je n'étais plus moi, mais un être non terrestre, immatériel, ignorant le mal et apte au beau jeu, et bien seul. Je cachais la plume dans mon gant et restais debout, n'ayant pas la force de m'éloigner d'elle. Regardez, on demande à papa la danse, me dit-elle, en éloignant la haute et élégante personne de son père, colonel aux épaulettes d'argent, qui se tenait dans les embrasures d'une porte entourée de dames. « Olenka, venez ici !» entendîmes-nous la voix basse de la maîtresse de maison, en ferronnière de Mayamon et au décolleté de l'impératrice Elisabeth. Olenka s'approcha de la porte. Je la suivis. « Ma chère, priez donc votre père de faire un tour avec vous. »« Allons, je vous en prie, Pierre Vlasilovitch. » dit la maîtresse de maison, s'adressant au colonel. Le père de Varenka était un vieillard beau, grand, élancé, très vert. Le visage coloré, les moustaches blanches, frisées à la Nicolas Ier, avec des favoris blancs rejoignant les moustaches, et les cheveux ramenés sur les tempes, et le même sourire joyeux de sa fille, était dans ses yeux brillants et sur ses lèvres. Il était admirablement bâti, la poitrine large, bombée comme chez les militaires, peu ornée de décorations, de fortes épaules, les jambes longues, élégantes. Il avait ce type des vieux serviteurs militaires de l'époque de Nicolas. Comme nous approchions de la porte, le colonel refusait, disant qu'il ne savait plus danser. Toutefois, en souriant, de la main gauche, il retirait son sabre du porte-épée et le remettait à un serviable jeune homme qui se trouvait à côté de lui. Puis, gantant sa main droite, « Il faut que tout se fasse selon les règles, » dit-il en souriant. Et il prit la main de sa fille, puis ôta d'un quart de tour et attendit la musique. À la première mesure de la mazurka, il frappa énergiquement d'un pied, lança l'autre en avant, et sa haute personne, tantôt doucement et en mesure, tantôt bruyamment, avec des chocs de pied l'un contre l'autre, commença à se mouvoir autour de la salle. La gracieuse Varenka volait à côté de lui, tantôt allongeant, tantôt diminuant les pas de ses petits pieds de souliers satin blanc. Toute la salle suivait chaque mouvement de ce couple. Et moi, non seulement je l'admirais, mais je le regardais avec un attendrissement enthousiaste. Les bottes surtout m'attendrissaient. De solides bottes, pas à la mode, avec les bouts pointus, mais des bottes d'autrefois, aux bouts carrés, sans talons, faites évidemment par le bottier du régiment. Pour sortir sa fille préférée, l'appareil, il ne s'achète même pas de bottes à la mode, mais porte de simples bottes, faites de régiment, pensais-je. Et ces bouts carrés m'attendrissaient particulièrement. On voyait qu'il avait dû danser très bien autrefois, mais maintenant, il était un peu lourd et ses jambes n'étaient plus assez souples pour les pas gracieux et rapides qu'il s'efforçait de faire. Cependant, il fit deux tours, et quand, séparant rapidement les jambes pour les rapprocher, il tomba à genoux, bien qu'un peu lourdement, et qu'elle, souriante, rajustant sa jupe qui accrochait gracieusement, tourna autour de lui, tous battirent bruyamment des mains. Il se releva avec un certain effort, prit tendrement, d'une façon charmante, sa fille par les oreilles, lui mit un baiser sur le front, et me la ramena, pensant que je danserais avec elle. Oh non, je lui dis que je n'étais pas son cavalier. Cela ne fait rien. Faites maintenant un tour avec elle, me dit-il en souriant tendrement et remettant son épée. De même qu'aussitôt qu'une goutte a coulé de la bouteille, tout son contenu se vide à grand flot. Ainsi mon âme, amour pour Varenka, délivrait toute capacité d'amour cachée dans mon âme. À ce moment, mon amour embrassait tout l'univers. J'aimais la maîtresse de maison, avec sa ferronnière et son décolleté à l'impératrice Élisabeth. J'aimais son mari, ses invités, ses valets, et même l'ingénieur Lassimov qui me boudait. Quant à son père, avec ses bottes du régiment, son sourire doux, semblable au sien, je ressentais pour lui un sentiment enthousiaste et tendre. Après le souper, je dansais avec elle le quadrille promis. Et bien que je fusse infiniment heureux, mon bonheur grandissait encore. Oh, nous ne parlions point d'amour. Je ne lui demandais pas plus que je ne me le demandais à moi-même, si elle m'aimait. Il me suffisait de l'aimer. Tout ce que je craignais était que quelque chose vint gâter mon bonheur. De retour à la maison, j'enlevai mon manteau. Je pensais pouvoir dormir, mais je vis bientôt que c'était absolument impossible. Je tenais à la main la plume de son éventail et son gant qu'elle m'avait donné en partant. Au moment où je l'aidais à monter en voiture après y avoir fait monter sa mère, je regardais ces objets et, sans fermer les yeux, je la voyais devant moi, tantôt au moment où, choisissant entre les deux cavaliers, Elle devenait à ma qualité. J'entendais sa voix charmante disant: La fierté, oui, qui, oui, tandis qu'elle me tendait joyeusement la main. Et tantôt, je la voyais au souper, buvant à petites gorgées le champagne, me regardant en dessous de ses yeux caressants. Mais plus nettement encore, je la voyais avec son père, quand gracieusement elle tournait autour de lui, et avec orgueil et joie, tant pour soi-même que pour lui, regardait les spectateurs émerveillés, et malgré moi, je les unissais tous deux dans un même sentiment affectueux, attendri. Je vivais à cette époque avec défunt mon frère. Mon frère, en général, n'aimait pas le monde et n'allait pas au bal. Et comme en ce moment, il préparait ses examens de l'université, il menait une vie très régulière. Il dormait. Je regardais sa tête enfouie dans l'oreiller, recouverte à demi par la couverture de laine, et j'eus pitié de lui. Pitié parce qu'il ne connaissait pas, il n'éprouvait pas le bonheur que moi j'éprouvais. Notre valet, le serf Pietrucha, qui était venu à ma rencontre avec la bougie, voulut m'aider à le déshabiller, mais je le renvoyais. La vue de son visage endormi, de ses cheveux embroussaillés, me paraissait pitoyable et attendrissante. M'appliquant à ne pas faire de bruit, sur la pointe des pieds, j'entrai dans ma chambre et je m'assis sur mon lit. Non, j'étais trop heureux, je ne pouvais pas dormir. En outre, j'avais chaud dans cette chambre trop chauffée. Et sans ôter mon uniforme, je passai sans bruit dans le vestibule, où je mis mon manteau, puis, ouvrant la porte de la rue, je sortis. J'avais quitté le bal après 4 heures du matin. Le temps d'arriver à la maison, d'y rester un peu, 2 heures s'étaient écoulées, de sorte que quand je sortis, il faisait déjà jour. C'était l'époque du carnaval. Il y avait du brouillard, la neige humide formait dans les rues et courait sur tous les toits. Les baies habitent. C'est à l'extrémité de la ville, près d'un grand champ au bout duquel se trouvait la promenade, puisque public, et de l'autre côté, l'institut de jeunes filles. Je traversai notre rue déserte et sortis sur la grande rue où circulaient déjà des piétons et des charretiers transportant du bois sur des traîneaux. Et les chevaux, qui balançaient régulièrement leurs têtes mouillées sous les arcs brillants, et les charretiers, le dos couvert de nattes, qui chaussaient d'énormes bottes, marchaient à côté de leurs chevaux, et les maisons, qui paraissaient très hautes dans le brouillard, oh, tout cela était pour moi plein de charme et d'importance. Suite de Tolstoï. En arrivant au champ près de l'endroit où se trouvait leur maison, j'aperçus à l'autre extrémité, dans la direction de la promenade publique, quelque chose de grand et de noir. J'entendis les sons d'une flûte et de tambour qui venaient de là-bas. Dans mon âme, tout chantait de temps en temps. J'apercevais le motif de la mazurka. Mais ce que je venais d'entendre était tout autre. C'était une musique cruelle, méchante. Qu'est-ce que c'est? Pensai-je. Et prenant au milieu du champ le chemin glissant, je me dirigeais du côté d'où venaient les sons. Après avoir fait une centaine de pas à travers le brouillard, je commençais à distinguer plusieurs personnes en vêtements sombres. C'étaient évidemment des soldats, probablement en exercice, pensais-je, et en compagnie d'un forgeron en paletot, de peau de mouton, sale et en sablier, qui portait quelque chose et marchait devant moi, je m'approchais davantage. Des soldats en uniforme noir se tenaient debout sur deux rangs, face à face, immobiles, le fusil au pied. Derrière eux, des tambours et une flûte répétaient sans arrêt le même air désagréable, aigu. « Mais que font-ils ? » demandai-je au forgeron qui s'était arrêté à côté de moi. « Oh, fussis-je un tatar pour désertion ?» répondit avec humeur le forgeron en me regardant à l'extrémité du rang. Je portais mes regards dans la même direction et j'aperçus entre les rangs quelque chose d'effrayant qui s'avançait de notre côté. Ce quelque chose qui s'avançait était un homme nu jusqu'à la ceinture, attaché au fusil de deux soldats qui le traînaient. Et à côté de lui marchait un militaire de haute taille, en manteau et képi, dont l'allure me rappela quelqu'un de connu, tressaillant de tout le corps, les pieds clapotant dans la neige fondue. L'homme puni s'avançait de mon côté, sous les coups qui tombaient sur lui de gauche et de droite, tantôt se rejetant en avant, tantôt tombant en arrière, et alors les sous-officiers, pour l'empêcher de tomber, le tiraient en arrière. Et à côté de lui, la démarche ferme, marchait l'officier de haute taille. C'était son père. Avec son visage rouge, sa moustache et ses favoris blancs. À chaque coup, l'homme puni avait l'air de s'étonner, tournait du côté d'où lui venait son coup, les coups son visage crispé par la souffrance, et en découvrant ses dents blanches, répétait quelque chose. Ce fut seulement quand il se trouva tout près de moi que je distinguais ses paroles. Il ne parlait pas, mais il sanglotait. « Frère, ayez pitié de moi ! Frère, ayez pitié !» Mais les frères n'avaient pas pitié. Et quand le cantrage se trouva juste à la même hauteur que moi, je vis le soldat qui était en face résolument faire un pas en avant, agiter le bâton en le faisant siffler dans l'air et l'abattre lourdement sur le dos du tatar. Celui-ci vit un mouvement brusque en avant, mais le sous-officier le retint, et un coup pareil lui fut donné de l'autre côté. Et de nouveau d'un côté, et de nouveau de l'autre. Le colonel s'avançait, toujours à la suite, regardant tantôt le sol, tantôt le puni, aspirant à pleine joue, puis se laissant le sang le sortir lentement entre ses lèvres. Le cortège ayant dépassé l'endroit où je me tenais, j'aperçus entre les rangs des soldats le dos du prisonnier. C'était quelque chose de bariolé, de mouillé, d'un rouge non naturel. Je pouvais croire que c'était un corps d'homme. « Oh, Seigneur Dieu !» murmurait à côté de moi le forgeron. Le cortège s'éloignait encore, et les coups continuaient à tomber des deux côtés sur l'homme qui trébuchait et se tordait, tandis que battaient les tambours et sifflaient la flûte. Et toujours, du même pas ferme, avançait à côté du puni la haute et élégante personne du colonel. Et tout d'un coup, le colonel s'arrêta, puis s'approcha rapidement de l'un des soldats. « Me t'apprendrai !» l'entendis-je dire d'une voix courroucée. « Tu as peur d'y toucher, je t'apprendrai !» Et je le vis frapper de sa main forte, ganté, le visage du soldat effrayé, anémique, parce que celui-ci n'avait pas laissé tomber suffisamment fort son bâton sur le dos ensanglanté du tatar. « Donnez des bâtons frais !» cria-t-il. Se retournant, il m'aperçut. Il feignit de ne pas me reconnaître, fronça méchamment les sourcils et détourna hâtivement. J'avais tellement honte que je ne savais où regarder, comme si j'avais été surpris, faisant un acte répréhensible. Je baissai les yeux et je m'éloignai hâtivement. Tout le long du chemin résonnait dans mes oreilles tantôt les tambours, tantôt la flûte, tantôt les paroles « Frère, ayez pitié !» Tantôt la voix ferme, courroucée du colonel, criant « Je t'apprendrai, je t'apprendrai !» Et mon cœur était plein d'angoisse, une angoisse presque physique, appelant la nausée, une angoisse telle que j'ai dû m'arrêter plusieurs fois, prêt, me semblait-il, à vomir toute cette horreur que ce spectacle avait répandu en moi. Oh, je ne me rappelle pas comment je rentrais à la maison et me couchais. Est-ce à peine m'étais-je endormi que de nouveau j'entendis et vis tout. Je bondis de ma couchette. Évidemment, il sait quelque chose que j'ignore, pensais-je du colonel. Si je savais ce qu'il sait, je comprendrais ce que j'ai vu et n'en serais pas horrifié. Mais j'eus beau réfléchir, je ne parvins pas à comprendre ce que savait le colonel et je ne pus me rendormir que le soir et encore, après être allé chez un camarade et m'être saoulé d'une façon épouvantable. Eh bien, que pensez-vous que ma conclusion, puisque ce que j'avais vu était un acte mauvais? Oh non, nullement. Si on fait cela avec une telle assurance, si tout le juge nécessaire, c'est évidemment qu'ils savent quelque chose que j'ignore, pensais-je. Et je tâchais de l'apprendre, mais j'eus beau faire, je n'y pus parvenir. Et ne l'ayant pas appris, je ne pus entrer au service militaire comme j'en avais formé le projet auparavant. Et non seulement je n'ai pas servi dans l'armée, mais je n'ai servi nulle part. Comme vous voyez, je n'ai été bon à rien. Oui, oui, nous savons comment vous avez été bon à rien, protesta l'un de nous. Dites plutôt combien d'hommes seraient bons à rien si vous n'étiez pas. « Bon, ce sont déjà des sottises, » fit Ivan Vassilievitch avec dépit. « Eh bien, et l'amour ?» demandâmes-nous. « L'amour ! Ah ! À dater de ce jour, l'amour commença à diminuer. Quand elle devenait pensive, le sourire sur le visage, comme cela lui arrivait souvent, je me rappelais aussitôt le colonel sur le lieu de la bastonnade. Elle me sentait mal à l'aise. Alors, je commençais à espacer de plus en plus mes rencontres et l'amour disparut complètement. Ainsi, voilà ce qui arrive et qui change du tout au tout la vie d'un homme, termina-t-il. Et vous dites que